Bonjour et bienvenue dans ce 11e épisode de Psychogénéalogie et compagnie, le podcast qui vous éclaire sur la psychogénéalogie et bien d'autres choses encore. Dans cet épisode, j'aborde la question de la place dans la fratrie et vous découvrirez à quel point cette place peut jouer un rôle capital dans votre projet sens. C'est-à-dire en deux mots pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode sur le projet sens, que cette place dans la fratrie peut jouer un rôle important dans le programme de vie que vous avez reçu de vos parents et que vous suivez fidèlement de manière totalement inconsciente. Quelques mots tout d'abord sur l'impact de la fratrie de manière générale dans la construction de votre identité. L'enfant va toujours à la recherche de l'amour de ses parents. Et dans une fratrie, cette recherche d'amour et d'attention va souvent se manifester par le développement de certaines aptitudes, de certains traits de caractère qui vont permettre à chaque enfant de se démarquer de ses frères et sœurs et d'éviter de rentrer en compétition avec eux. Tout se passe comme si chaque enfant, pour trouver sa place, exacerbait ou refoulait ses potentialités, nous dit Chantal Rialan dans son ouvrage « Cette famille qui vit en nous ». Observez les familles autour de vous. Souvent, on y trouve l'intello, l'artiste, le sportif et d'autres catégorisations caractérielles comme le rebelle, le gentil, le plaintif, le bon élève, le cancre. Mais beaucoup plus rarement, bien que ça existe, des enfants qui excellent tous dans le même domaine. Donc finalement, nous construisons notre personnalité par un processus de comparaison-différenciation avec nos frères et sœurs qui est plus ou moins marqué en fonction du climat que nos parents ont installé dans la fratrie. La compétition ou la coopération, qui est toujours à mettre en lien avec ce qu'ils ont eux-mêmes connu dans leur fratrie respective, soit dans le sens d'une répétition, soit dans le sens d'une réaction opposée. Et bien sûr, ces étiquettes vont très souvent nous poursuivre dans notre vie relationnelle, amoureuse et professionnelle à l'âge adulte. L'important est de prendre conscience de ces mécanismes hérités de notre histoire familiale et de se libérer de ces loyautés conscientes et inconscientes pour pouvoir s'autoriser à développer ses propres potentialités. Parlons maintenant de l'impact de votre place dans la fratrie en fonction de laquelle un rôle spécifique vous a été attribué, surtout pour les aînés et derniers-nés. Commençons par le début, la place d'aîné. C'est une place toute particulière. Vous êtes le premier ou la première, celui ou celle sur lequel ou laquelle ont reposé, pour un temps du moins, toutes les attentes de vos parents. Comme vous vivez pendant un temps plus ou moins long, seul avec vos parents, vous expérimentez donc d'être l'enfant unique. Et l'arrivée de l'enfant suivant peut réveiller chez vous la peur de ne plus être aimé et donc l'esprit de compétition pour garder l'amour des parents. Vous êtes aussi l'enfant qui a forgé ses parents, sur lequel ils se sont fait la main, et donc le point de comparaison de tous les autres enfants à venir. En tant qu'aîné, on attend donc de vous, entre autres, d'être un modèle pour les suivants, d'avoir le sens de la famille et des responsabilités. À l'époque, et c'est encore vrai dans certains cas, le fils aîné était celui qui reprenait la place de son père à son décès et endossait le rôle de chef de famille, reprenant l'entreprise familiale ou désigné comme unique héritier du patrimoine de la famille du temps du droit d'aînesse. La fille aînée, quant à elle, était chargée de remplacer la mère, ce qui souvent d'ailleurs créait chez elle un rejet plus ou moins conscient de la maternité, se traduisant par des stérilités inexpliquées ou l'impossibilité de se stabiliser dans une vie de couple. Aujourd'hui encore, en tant qu'aîné, on vous attribue souvent, consciemment ou inconsciemment, la mission de prendre la place du parent décédé ou absent. Bref, en règle générale, la place d'aîné fait de vous quelqu'un de responsable, à tendance autoritaire et perfectionniste, souvent habitué à prendre en charge les autres. Le second enfant est généralement accueilli avec plus de flexibilité par les parents. Ils sont souvent moins exigeants, plus souples dans les règles de vie et dans leurs attentes vis-à-vis du second. En tant que cadet, vous êtes en principe plus libre de faire vos propres choix, pour les activités et les études notamment. En revanche, vous devez faire face à la jalousie affichée ou l'attente de votre aîné, qui peut être source de souffrance, y compris jusqu'à l'âge adulte. Si un autre enfant naît après vous, il est possible, en tant qu'enfant du milieu, que vous ayez du mal à trouver votre place dans la famille, avec un sentiment d'être inexistant, invisible. Vous n'avez pas les égards accordés à l'aîné, ni les privilèges du dernier-né. Certains enfants du milieu peuvent, par réaction, pour trouver leur place, développer des aptitudes particulières ou s'orienter dans une carrière professionnelle radicalement opposée à celle de leur famille. Cette question de la place accordée à l'enfant du milieu est à nuancer lorsque le cadet est d'un sexe différent de l'aîné, car dans ce cas, il bénéficie du fait d'être la première fille ou le premier garçon. Les deuxième, troisième, quatrième enfants souffrent moins que les aînés de l'arrivée de l'enfant suivant. Ils sont déjà habitués à partager l'amour de leurs parents et cela fait souvent d'eux des adultes empathiques, sociables et adaptables. La place de dernier-né ou de Benjamin, vous noterez ici la symbolique du prénom, a également une forte influence sur le développement de la personnalité. Vous êtes le petit dernier ou la petite dernière, celui ou celle qui clôture la maternité et la paternité, ce qui fait souvent de vous un éternel enfant. Vos parents vous chouchoutent, vous gâtent et ne veulent pas vous voir grandir car après vous, il n'y a plus personne. Dans son ouvrage La discipline positive, Jane Nelson décrit une croyance souvent développée par les derniers-nés du fait de ce surinvestissement des parents. « Je me sens aimée lorsqu'on s'occupe de moi ». Elle alerte sur le risque accru pour ses enfants de ressentir de l'injustice dès qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent et d'avoir également plus de difficultés à devenir autonomes. C'est une place qui n'est pas aussi facile à occuper qu'elle en a l'air, car elle suscite souvent la jalousie de la fratrie, d'autant que les parents sont souvent devenus beaucoup plus indulgents et il n'est pas rare que les derniers-nés deviennent les souffre-douleurs des plus grands et qu'en grandissant, ils se sentent exclus de leur fratrie ou différents de leurs frères et sœurs. Ici aussi, le sexe de l'enfant a son importance. Ce n'est pas pareil d'être le dernier-né garçon tant attendu dans une fratrie de filles que d'être le quatrième et dernier garçon. Chaque situation est particulière. S'il naît longtemps après les autres, le dernier-né peut être assimilé à un enfant unique. C'est d'ailleurs souvent aux enfants tardifs qu'est attribuée la fonction de bâton de vieillesse ou d'enfant désigné, celui qui sacrifiera sa propre vie consciemment ou inconsciemment pour s'occuper de ses parents vieillissants. Dans les grandes fratries de plus de 3 enfants, on trouve toutes sortes de configurations relationnelles en fonction de l'écart d'âge entre les enfants, des alliances qui se créent, et il arrive souvent qu'un des enfants soit le bouc émissaire ou la brebis galeuse du groupe. Plus la fratrie est grande, plus les enfants, surtout les derniers, peuvent avoir le sentiment d'avoir été traités comme un tout, une masse d'enfants, sans avoir pu construire une relation personnelle avec leurs parents. Lorsque les aînés sont amenés à s'occuper des plus jeunes, ils endossent un rôle qui n'est pas le leur, ce qui crée beaucoup de confusion dans les places occupées par chacun et peut se manifester ensuite par une difficulté à trouver sa place dans tous les domaines de la vie à l'âge adulte. À propos de l'écart d'âge dans la fratrie, il arrive que les enfants très rapprochés soient traités comme des jumeaux, ce qui peut créer un problème de territoire entre eux. En revanche, lorsqu'il y a plus de 5 ans entre les enfants d'une même fratrie, on considère qu'ils ont pu mettre en place des systèmes de fonctionnement se rapprochant de ceux des enfants uniques. L'enfant unique, justement, parlons-en. Il peut se voir traité comme un aîné, il est attendu de lui qu'il soit responsable et qu'il grandisse vite, ou inversement, comme un dernier-né, invité à rester un éternel enfant. Quoi qu'il en soit, toutes les projections et attentes de ses parents reposent sur ses seules épaules et il se trouve souvent enfermé dans des attentes de perfection. Bien sûr, je décris ici des grands traits de personnalité attribués à chaque place dans la fratrie. Mais comme toujours, il s'agit de grandes lignes qui sont à nuancer en fonction du contexte familial. Et il y a toujours, et fort heureusement, des exceptions qui d'ailleurs sont intéressantes à analyser pour comprendre les dynamiques familiales. Par exemple, il peut arriver dans certaines familles que le deuxième enfant se comporte en aîné ou que le dernier-né prenne l'ascendant sur tous les autres. Et il est toujours intéressant de comprendre ce qui a mené à ces échanges de rôles. Enfin, et il me semble important de le préciser, il n'y a pas de meilleure place. Comme le disent Saverio Tomasella et Charlotte Wills dans leur livre « Faire la paix avec sa famille », le rang de la fratrie influence notre destinée beaucoup plus qu'il n'y paraît, mais aucun n'est réellement plus favorable qu'un autre. Et je profite de cet épisode pour vous rappeler que chaque enfant dans une fratrie a des parents différents, du fait du contexte économique, social, culturel, de sa place dans la fratrie, mais aussi de ce que sa personnalité propre fait réagir chez ses parents. Au-delà de ces constats, qui relèvent du domaine de la psychologie de l'enfant, la psychogénéalogie apporte un éclairage particulier sur l'influence du rang dans la fratrie. Tout d'abord, souvenez-vous que les parents se projettent en général sur l'enfant qui occupe la même position qu'eux dans la fratrie. Ainsi, si vous êtes l'aîné, vous allez avoir des attentes spécifiques vis-à-vis de votre aîné qui correspondent à la manière dont vous avez vous-même vécu cette place. J'ai accompagné un homme qui avait des attentes très importantes vis-à-vis de son second fils, mais pas vis-à-vis de l'aîné, et il a pris conscience qu'étant lui-même second avec un grand frère très effacé, il avait occupé le rôle d'aîné, et qu'il reproduisait donc inconsciemment le schéma familial qu'il avait connu enfant. Lorsque l'on s'intéresse à votre place dans la fratrie en psychogénéalogie, l'ensemble des grossesses est pris en compte. c'est-à-dire qu'on fait figurer sur l'arbre généalogique, appelé génosociogramme, les fausses couches, avortements, grossesses extra-utérines et interruptions médicales de grossesse des femmes de la famille. Pourquoi donc, me direz-vous ? Bien parce que contrairement à ce que certains ont longtemps pensé, ces bébés non advenus comptent pour les parents. Ils existent et laissent même souvent une trace émotionnelle forte car refoulée ou non prise en compte par la famille et le corps médical, du moins jusqu'à tout récemment. Et puisqu'ils existent dans la psyché de vos parents, et donc dans la vôtre également, ils peuvent venir bouleverser le jeu des projections et attentes inconscientes que les parents ont vis-à-vis de vous. En d'autres termes, nous jouons tous les rôles attendus en lien avec notre place dans la fratrie, mais aussi ceux qui nous sont donnés en lien avec notre place dans l'inconscient familial. Si vous voulez comprendre ce que vos parents attendaient de vous, il est important de savoir par exemple qu'un enfant est mort avant vous et que vous avez pu endosser le rôle d'enfant de remplacement ou celui d'enfant réparateur. Et sans aller jusqu'à cette situation extrême, il est clair que ce n'est pas la même chose de naître second enfant juste après le premier ou second enfant après une longue série de fausses couches. Vous pouvez ressentir une sorte de dissonance intérieure lorsque vous occupez une position dans la fratrie qui ne correspond pas à votre place au niveau de l'inconscient familial. Dissonance qui peut se traduire par une difficulté à trouver votre place dans les autres domaines de votre vie, relationnelle, amoureuse, professionnelle, et des symptômes physiques comme entre autres une prise de poids ou inversement de l'anorexie ou encore des problèmes de bronches associés aux conflits de territoire. Pour aller plus loin et pour comprendre les dynamiques familiales transgénérationnelles qui agissent sur vous, il peut arriver qu'en fonction de votre rang de naissance, vous soyez désigné consciemment ou inconsciemment par vos parents pour aller combler un vide dans les générations précédentes. Certaines femmes que j'accompagne ont conscience d'avoir fait un de leurs enfants pour réparer ou combler un vide. Le petit troisième que ma mère aurait tellement voulu, ou le deuxième garçon que mes parents n'ont pas eu. Et il arrive souvent qu'elles réalisent en séance qu'elles ont inconsciemment tout organisé pour offrir symboliquement cet enfant à leurs parents ou grands-parents. Par exemple, en choisissant un travail qui ne leur permet pas de s'en occuper, ou en choisissant un père pour leur enfant, dont elles savent dès le départ que le couple est voué à l'échec. Et bien sûr, l'enfant qui répare accomplira fidèlement ce qu'on attend de lui en s'adaptant, du moins pour un temps, au moule qui lui est proposé. Après des années d'observation clinique et en se référant aux représentations de notre inconscient collectif, il a été constaté que les enfants portent un héritage émotionnel différent en fonction de leur rang de naissance. En principe, l'enfant numéro 1 porte l'héritage émotionnel du père. C'est celui que la mère offre symboliquement au père. L'enfant 2 porte l'héritage émotionnel de la mère. C'est l'enfant qu'elle garde pour elle. L'enfant 3 est l'enfant du couple. L'enfant 4 est à nouveau l'enfant du père, l'enfant 5 l'enfant de la mère, et ainsi de suite. L'enfant unique reçoit pour sa part les héritages émotionnels des branches paternelles et maternelles. Avec les familles recomposées, un enfant peut être le troisième enfant de son père, mais le premier de sa mère. Bien sûr, il y a des exceptions. Comme toujours, chaque situation est unique, mais ces clés de compréhension des transmissions de l'arbre généalogique vous donnent souvent de premières pistes d'analyse très pertinentes. Au niveau transgénérationnel, la pratique psychogénéalogique a permis de montrer que nous sommes également en lien avec les autres membres de notre famille qui occupent le même rang que nous dans la fratrie. Ainsi, si je suis l'enfant numéro 2, je suis en lien avec les autres personnes qui occupent ce rang dans l'arbre. Pourquoi donc ? Par le jeu des projections inconscientes et des transmissions invisibles dont je vous ai parlé dans les précédents épisodes, non seulement les parents et le cercle familial proche projettent sur vous ce qui appartient à quelqu'un d'autre dans la famille, mais vous pouvez aussi hériter de ressentis qui ne vous appartiennent pas. Pour comprendre la dynamique de la fratrie, impulsée majoritairement par les parents, il est important de regarder ce qui s'est joué dans leur propre fratrie. En effet, il arrive fréquemment que les enfants soient amenés à rejouer un conflit qui appartient en réalité aux générations précédentes. Il arrive aussi qu'un enfant soit rejeté inconsciemment car il occupe la même place qu'un frère maltraitant ou qu'une sœur qui a été favorisée par les parents, par exemple. J'ai ainsi accompagné un homme qui avait d'importantes difficultés relationnelles avec son fils aîné qu'il considérait inconsciemment comme son rival. Après avoir fait des recherches sur l'histoire de sa famille, il a découvert que son grand-père avait été mis à la porte du domicile conjugal par son fils aîné suite à de multiples infidélités dont il ne se cachait pas. Il a réalisé alors qu'il rejouait avec son propre fils aîné le conflit qui avait opposé son oncle et son grand-père et qui s'était terminé par une coupure totale des relations père-fils dans la famille. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode sur le projet Sens, à force d'être l'objet de projections, l'enfant peut même finir par réintégrer ce rôle à sa personnalité et devenir inconsciemment le personnage qu'on a projeté sur lui. En d'autres termes, ces projections peuvent être programmantes pour sa vie future. En identifiant les places réelles de chacun dans l'inconscient familial, l'accompagnement grâce à la psychogénéalogie permet de mettre en lumière les projections et attentes inconscientes, ainsi que les héritages émotionnels qui ont pesé sur vous dès votre conception, pour vous permettre de vous en libérer et de retrouver votre libre arbitre. Voilà ce que je peux vous dire sur l'importance de votre place dans la fratrie dans votre projet Sens. J'espère que cet épisode vous aidera à mieux mettre en lumière les dynamiques à l'œuf dans votre famille et à comprendre certains de vos blocages ou fonctionnements répétitifs. Si vous vous intéressez à cette question, je vous recommande le livre « Faire la paix avec sa famille » de Saverio Tomasella et Charlotte Wills. Et si vous souhaitez une approche plus approfondie, vous pouvez consulter l'ouvrage d'Alessandro Jodorowsky et Marianne Costa, « La famille, un trésor, un piège ». Pour en savoir plus sur l'accompagnement que je propose à distance ou en cabinet, n'hésitez pas à consulter mon site internet sophieduverne.com. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie.